Bonjour à tous et merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel. Il est midi et demi ici à Paris.
RFI midi, Anne Cantner.
RFI midi, 2 heures ensemble sur tous les continents. À la une ce vendredi 24 janvier, les conséquences du dérèglement climatique, conséquences pratiques, concrètes. Un enfant sur 7 en âge d'aller à l'école a vu sa scolarité perturbée l'année dernière. Chaleur extrême, inondations, tempêtes ou pics de pollution comme c'est le cas aujourd'hui à Bangkok en Thaïlande où plus de 350 écoles sont fermées. Notre invitée dans 3 quarts d'heure, la directrice du plaidoyer de l'UNICEF en France, l'Agence des Nations Unies pour l'Enfance. Le début des expulsions promises par Donald Trump aux États-Unis, des centaines selon la Maison-Blanche, arrêtées hier dans des villes démocrates. Les Nations Unies rappellent ce matin que le droit d'asile est universellement reconnu. Une mise au point alors que le président américain remet en cause le droit du sol. Sa décision a d'ailleurs été suspendue par un juge fédéral. Nous y reviendrons dans le journal, dans une demi-heure et dans le rendez-vous d'Haïti et des Amériques à partir de 13h, temps universel. Vous entendrez aussi à ce moment-là la représentante du réseau de défense des droits de l'homme en Haïti. Le sort des déplacés, victimes des violences des gangs, inquiète de plus en plus.
RFI, l'Europe à midi.
Nous en parlions ici même hier. La Biélorussie organise dimanche une élection présidentielle sans suspense, une de plus. De nombreux pays occidentaux dénoncent depuis des décennies déjà des scrutins qui ne sont ni libres ni équitables. Et celui-ci devrait donc voir le président réélu, Alexandre Loukachenko, à la tête d'un pays considéré comme un satellite de la Russie. Il fera face dimanche à 4 candidats mais aucun adversaire réel, Romain Le Maresquier, car l'opposition a fui le pays pour échapper à la répression.
Il est au pouvoir depuis 1994. Alexandre Loukachenko est aujourd'hui le plus ancien dirigeant des ex-républiques de l'espace soviétique. À 70 ans, il continue de diriger d'une main de fer un régime considéré par beaucoup comme le plus autoritaire en Europe. Sans véritable opposant dans ce scrutin présidentiel et pour cause, il devrait logiquement être reconduit pour un 7e mandat à la tête d'un pays dont le régime s'est encore plus durci depuis août 2020 et la précédente élection qui avait été entachée de nombreuses fraudes. Olga Gilbelova, docteur en sciences politiques et maître de conférences à l'université Bordeaux-Montaigne.
Souvent, quand on parle de Biélorussie, on parle d'une forme d'accord tacite qui existait plus ou moins avec les classes moyennes biélorusses, en tout cas qui a permis l'émergence de ces classes moyennes biélorusses qui pouvaient circuler à l'époque assez librement, qui pouvaient donc gagner leur vie assez facilement. Mais en échange, ils ne devaient pas manifester évidemment d'ambition politique et c'est ce pacte donc, qui, de point de vue de Loukachenko, a été rompu en 2020 quand beaucoup de citoyens biélorusses ont exprimé les revendications politiques.
Ces revendications, les manifestations avaient été réprimées brutalement et depuis, Alexandre Loukachenko a écarté toute opposition.
Oui, si certains de ses opposants ont été arrêtés et sont désormais en prison, d'autres sont parvenus à fuir, comme le détaille Ronan Hervouet, sociologue, professeur à l'université de Bordeaux et qui mène actuellement des recherches sur les exilés biélorusses.
Dès l'automne 2020, des Biélorusses par milliers et dizaines de milliers même ont fui le pays par peur des répressions, par peur de l'emprisonnement, par peur des tortures, par peur des menaces sur leur famille. Et beaucoup sont arrivés en Lituanie, en Pologne, également en Géorgie. Ces personnes, au début, continuaient à participer à des formes de mobilisation, de manifestation, de soutien aux prisonniers politiques, etc. Mais rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils se sentaient pas en sécurité, même dans les pays d'accueil. Ils avaient peur que leur mobilisation à l'étranger puisse nuire à leurs proches. Donc aujourd'hui, la mobilisation, l'action contre le régime apparaît extrêmement difficile à mener collectivement depuis l'étranger et même à l'intérieur du pays.
Sans opposant, même si son adversaire en 2020, la chef de file de l'opposition, est en exil, même si Svetlana Tikhanovskaya continue de se battre de l'extérieur du pays, le président Loukachenko, lui, compte bien rester sur la même ligne, Romain.
Oui, c'est-à-dire avancer main dans la main avec la Russie de Vladimir Poutine, dont la Biélorussie aujourd'hui ne peut se passer. Olga Gilbelova.
Il y a une dépendance beaucoup plus importante qui s'est instaurée à l'égard de la Russie, la dépendance militaire, la dépendance stratégique, la dépendance économique qui existait déjà auparavant mais qui s'est beaucoup renforcée depuis 2022.
Alexandre Loukachenko applique aujourd'hui la méthode Poutine, c'est donc la peur qui domine dans le pays, à tel point que cette année personne ne s'attend à ce que les Biélorusses mécontents sortent s'exprimer dans les rues après cette élection. Ronan Hervouet.
Il y a un tel degré de répression, tout a été traqué et continue d'être traqué, ce qui fait que on a 1250 prisonniers politiques, mais il y en a qui ont pris des peines d'un an de prison, de deux ans de prison, qui sont sortis, mais il y en a d'autres qui entrent. En fait, ça ne s'arrête pas depuis 2020. Donc la répression à l'intérieur du pays est telle que une mobilisation apparaît complètement impossible.
Alexandre Loukachenko va donc enchaîner un septième mandat, personne n'en doute, mais à 70 ans, il n'est pas éternel. Et s'il pourrait encore enchaîner un ou deux mandats, la question de sa succession se pose aujourd'hui, ce qui semble être la seule issue possible pour un changement de pouvoir à la tête de la Biélorussie.
Romain Lemaresquier, la Biélorussie, très proche de la Russie voisine et aussi très attractive depuis deux ans, depuis que les Occidentaux ont imposé des sanctions très stricte à Moscou. La Biélorussie en subit, elle aussi, mais de moindre importance. Et cela lui a permis, par exemple, de garder sur son sol des enseignes des marques ayant quitté le marché russe après le début de la guerre en Ukraine. Conséquence, les consommateurs font maintenant le déplacement jusqu'à Minsk, comme vous l'avez constaté sur place, Anissa El-Jabri.
Dans les rues de la capitale Minsk, on ne voit pas, comme c'est le cas en Russie depuis deux ans et demi, ces flots de voitures chinoises qui se taillent la part du lion dans le marché du neuf. Ici, on roule très majoritairement encore européen, en Volkswagen, Mercedes, Renault, Peugeot, Skoda, Citroën, et puis bien plus marginal mais symbolique, dans l'habillement, certaines chaînes gardent une présence discrète dans deux centres commerciaux de Minsk, Zara notamment, et cela donne lieu à un bal assez particulier, surtout le week-end, des allers-retours Russie, Biélorussie, Russie, juste pour la journée, juste pour du shopping, comme cette famille visiblement aisée venue hier de Saint-Pétersbourg avec deux petites filles et cinq sacs remplis très rapidement à ras-bord.
La première fois que je suis venue en Biélorussie, c'était il y a un mois pour le travail. Et là, on est venu pour la journée, on fait l'aller-retour en avion et on a décidé d'aller au centre commercial car nous n'avons plus ces marques à Saint-Pétersbourg. On a acheté pour nous et les enfants des vêtements pour l'école et le travail, des chaussures, un peu de tout. Au total, c'est vrai que ce n'est pas spécialement bon marché et on n'a pas eu beaucoup de temps, une heure et quart. Maintenant, on doit se dépêcher, le taxi nous attend pour l'aéroport.
À Minsk, on observe ce manège et on fait les comptes comme cette femme rencontrée sur le parking du centre commercial.
Les Russes viennent surtout dans ces boutiques quand il y a des promotions, des soldes ou les jours fériés. Dans ces cas-là, on peut se retrouver avec un ratio de 30 Russes pour 10 Biélorusses. Avant, Russes comme Biélorusses, on allait tous faire du shopping dans les pays baltes et en Europe, maintenant, ce sont eux qui viennent chez nous.
McDonald's a pour sa part quitté la Biélorussie un peu moins de 6 mois après avoir quitter la Russie et comme son grand voisin a aussi développé sa propre franchise avec les mêmes menus à la carte et le même personnel.
Anissa El-Jabri, envoyée spéciale en Biélorussie où l'on votera donc dimanche pour la présidentielle. La Biélorussie a servi de base, de point de passage aux forces russes depuis le début de la guerre en Ukraine. Des forces qui contrôlent aujourd'hui toute une partie de l'est du pays. L'armée ukrainienne est en très grande difficulté et il n'y a pas de perspective de sortie du conflit pour l'instant. Même Donald Trump a revu ses déclarations et il nuance sa promesse de mettre fin à la guerre en 24 heures. Aujourd'hui, il parle plutôt de plusieurs mois. L'Europe suit de près et avec inquiétude parfois. Nous allons voir avec notre confrère Jędrzej Bielecki comment on vit tout cela en Pologne voisine. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes journaliste, éditorialiste au quotidien conservateur Gettpospolita. La Pologne, elle a accueilli de très nombreux réfugiés depuis le début de cette guerre en Ukraine, mais il y a eu aussi ces derniers mois des protestations, des tensions du côté du secteur agricole qui a dénoncé l'entrée sur le marché de produits ukrainiens à prix cassé. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on vit ce conflit dans le pays voisin ?
Je pense que ce qui est très important, c'est les élections présidentielles qu'on va avoir en mai. Le président qui est élu va, comme c'est aujourd'hui, être un représentant de ce parti populiste nationaliste PiS qui était au pouvoir pendant 8 ans, et bien les réformes que veut mener le gouvernement Donald Tusk seront toujours bloqués. Et là, vous avez cette question ukrainienne, c'est-à-dire que le Premier ministre essaye de ne pas prendre de décisions trop risquées. On le voit par exemple en décembre, quand le président Macron était ici en Pologne, il a essayé de convaincre le Premier ministre polonais de participer à cette idée, n'est-ce pas, d'une mission internationale qui garantirait les frontières, la ligne de front, n'est-ce pas, en Ukraine s'il y aurait une paix. Eh bien, le Premier ministre polonais a dit que pour l'instant, la Pologne n'est pas intéressée. On attend toujours ces élections en mai. Et jusque-là, la Pologne va avoir cette ligne très, comment dire, elle ne va pas prendre de risques sur ce sujet. En ce qui concerne Donald Trump, vous avez mentionné justement son changement de position. Il s'est adressé aux participants du sommet de Davos hier. Il y avait à la fin une question, on lui a demandé, est-ce que vous pensez, monsieur le président, que dans un an, si vous venez à Davos, cette guerre sera finie? Et il a dit qu'il n'est pas sûr, ça dépend de Poutine. Et je pense que ça, c'est très intéressant parce que le président américain se rend compte que le président russe ne veut céder sur aucun point, que son but est toujours un contrôle de l'Ukraine tout entière, qu'il ne veut pas accepter aucune garantie pour l'Ukraine, bien entendu, pas l'entrée dans l'OTAN, mais aussi cette mission dont parle le président Macron. Et donc ça, je pense que c'est accueilli ici en Pologne avec un certain espoir, parce qu'il y avait cette peur qu'on pourrait voir un accord direct entre Washington et Moscou, sans la participation des Européens, sans la participation de la Pologne et même de l'Ukraine. Et
donc un soulagement, en fait, sur ce point de la guerre en Ukraine. Est-ce que d'une manière générale, ce retour de Donald Trump au pouvoir provoque une certaine appréhension? Vous avez mentionné l'OTAN, par exemple, c'est un point sur lequel il met énormément de pression sur les pays européens. Comment est-ce que ça s'est perçu en Pologne?
Il y a un signe qui est assez intéressant. Vous savez que lundi, on aura le 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Et entre autres, le président Macron sera ici aussi. Et il y avait une question, est-ce que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sera là? Il est suivi, il est selon la Cour internationale pénale, il devrait être arrêté. Et au début, la Pologne disait, oui, s'il vient ici, il ne sortira pas, parce qu'on veut que cette cour soit respectée, si on veut qu'un jour aussi, Poutine soit arrêté aussi. Et trois semaines plus tard, le premier ministre Tusk a changé complètement d'opinion. Pourquoi je mentionne Netanyahu ici dans le contexte de Trump? Parce que, bien entendu, c'est un politique très proche de Trump. Et là, je pense que tout simplement, le premier ministre polonais, encore une fois, essaye de ne pas entrer en conflit sur aucun niveau avec Trump. On attend ce qu'il va faire. Un autre signe qui est aussi intéressant, c'est Elon Musk, n'est-ce pas, qui est très proche de Donald Trump, et qui s'est intéressé aux élections en Allemagne, qui a appuyé le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland, qui pourrait s'intéresser de la Pologne. Pour l'instant, sur ses tweets, il est assez positif sur la Pologne, mais on a aussi un peu peur qu'il se mette du côté de ce parti nationaliste populiste que je viens de mentionner, PiS. On dit qu'il veut acheter un appartement de luxe en haut d'un gratte-ciel ici à Varsovie.
Donc peut-être aussi un intérêt qu'on commence à voir se dessiner pour la Pologne. Je vous remercie beaucoup, Jędrzej Bielecki, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes éditorialiste au quotidien conservateur polonais Gettpospolita. Merci beaucoup.
RFI Midi, Anne Kontner.
Un coup d'œil à la presse européenne. Le Soir nous apprend que le groupe Meta a laissé passer des milliers de campagnes de propagande russe. Le quotidien belge rapporte que Facebook a empoché au moins 338 000 dollars en diffusant les campagnes d'une agence de communication russe en lien direct avec le Kremlin. Plus de 8 000 publicités politiques publiées en Europe et en particulier en France, en Allemagne, en Pologne et en Italie. L'Europe face au risque du retour de régimes autoritaires et de dirigeants durs, selon l'ancien Premier ministre grec Alexis Tsipras. Aujourd'hui député de gauche, il accorde un entretien au journal français Libération et il alerte sur ce glissement politique. Son impact sur les populations et sur l'Europe elle-même sera destructeur. Et puis tous les Britanniques sont invités à compter les oiseaux ce week-end, comme chaque année depuis 1979. C'est le Guardian qui nous le dit. Cette étude, qui existe donc depuis des décennies, a permis de montrer par exemple qu'il y avait 38 millions d'oiseaux en moins qu'il y a une cinquantaine d'années. 60% de moineaux ont disparu. Et ce rendez-vous annuel, c'est aussi l'occasion de rappeler aux amateurs qu'il ne faut pas les nourrir, ces oiseaux. Ça perturbe le cycle naturel et cela favorise la propagation des maladies.
RFI, l'Europe à midi.
Direction la Serbie, avec un appel à la grève générale lancé aujourd'hui, presque trois mois après l'effondrement d'un auvent dans une gare du pays. Catastrophe qui avait fait 15 morts au début du mois de novembre. Depuis, les protestataires se mobilisent. Ils accusent les autorités de corruption, de népotisme, de ne pas avoir suffisamment pris en charge les infrastructures. Et après des semaines de blocage des universités, de nombreuses manifestations aussi, le mouvement tente de mobiliser toute la population afin de pousser le gouvernement à la démission. Laurent Rouy.
Oui, bonjour. Alors, l'appel à cesser le travail aujourd'hui et à boycotter les commerces et institutions qui resteraient ouverts est avant tout, une tentative d'entraîner la plus grande partie de la population du côté de la contestation. Alors, le mouvement, qui déjà est très populaire, s'appuie sur les étudiants qui bloquent les deux tiers des universités du pays. Ils réclament justice pour l'accident, vous l'avez dit, de Novi Sad et aussi la démission du gouvernement. Pourtant, ce mouvement n'est pas assez puissant pour forcer la main du président Aleksandar Vučić. Ce dernier refuse obstinément la moindre concession. Alors, dans ces conditions, les protestataires tentent de renforcer leur assise et leur stratégie, troquer le soutien de la population, qui était un soutien passif, contre une participation beaucoup plus active, à même de peser dans le bras de fer contre le pouvoir politique. La grève est très suivie dans l'éducation, les milieux culturels, par les avocats, de nombreuses petites entreprises s'y joignent, mais pas encore le secteur public, où il semblerait que des pressions soient exercées par le gouvernement pour empêcher les fonctionnaires de manifester. Alors, dans ce contexte très polarisé, le parti du président organise aussi une contre-manifestation aujourd'hui, une contre-manifestation à l'ampleur incertaine dans une ville de province, tandis que les manifestations éclairs du mouvement anticorruption, elles sont bien visibles, ont lieu dans tout le pays, où le centre-ville de Belgrade est ville morte, sauf là où justement il y a ces fameuses manifestations aujourd'hui.
Laurent Rouy, en direct, correspondant de RFI en Serbie, à Belgrade. Il est midi et 46 minutes. On parlait tout à l'heure du retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis et de ce que cela pourrait signifier pour l'Europe, notamment pour le cours de la guerre en Ukraine. Il y a un autre dossier qui préoccupe, c'est l'avenir du Groenland, territoire autonome sous administration du Danemark, sur lequel le président américain veut mettre la main, quels que soient les moyens pour le faire. Et ses ambitions impérialistes ont un effet assez inattendu. Elles relancent les velléités d'indépendance du Groenland, comme l'a constaté notre envoyé spécial, Otilia Ferré.
Un Groenlandais déchire, avec une certaine ferveur, il faut le dire, un billet de $100 devant la caméra d'un journaliste lors d'un débat sur l'avenir du Groenland à Nuuk. Une image qui parle d'elle-même, une image symptomatique du ressenti de la population vis-à-vis des États-Unis. Pas grand monde ici pense que Donald Trump mettra à exécution ses plans d'annexion de l'île arctique. Tida, 60 ans, et Kira, étudiante de 25 ans, elle n'y croit pas du tout.
Les gens ici, on n'a rien à foutre, on ne peut pas être acheté. On sait de génération en génération à quel point les Indiens, les tribus ou les indigènes sont maltraités aux États-Unis.
Nous ne sommes pas des objets, mais des êtres humains. Ça nous fait beaucoup rire, mais nous ne voulons pas être doublement colonisés. Nous voulons être nous-mêmes et je pense que le temps est venu.
Et c'est ainsi que Trump est devenu l'allié improbable des indépendantistes groenlandais. Son intérêt pour la plus grande île du monde a ravivé et attisé les espoirs de nombreux habitants. C'est le cas de Kupanuk, youtubeuse et ingénieure qui arbore fièrement les traditionnels tatouages inuits sur le visage. Une manière pour elle, comme beaucoup d'autres, de se réapproprier sa culture. Emmitouflée dans d'épaisses couches de vêtements et les mains bien au chaud dans ses gants en peau de phoque, Kupanuk pointe du doigt le sommet d'une petite colline, un lieu visité par Donald Trump Jr. lors de sa visite express sur le territoire autonome.
La statue que tu vois, c'est Hans Egede, le colonisateur du Groenland. C'est plutôt un Groenlandais dont on est fier qui devrait être là-haut.
Le froid ne fait évidemment pas peur à Karsok, mais la température frôle tout de même les moins 15 degrés et le vent se lève. Elle décide de grimper dans sa voiture, direction un café pour se réchauffer.
Je vais me présenter aux élections. Je viens de rejoindre le parti indépendantiste et je vais me battre pour l'indépendance du Groenland. Le fait que Trump s'intéresse au Groenland, ça a provoqué un immense déclic. Les Groenlandais commencent vraiment à réaliser qu'ils ont beaucoup plus de valeur que ce qu'ils pensaient. Je vois tout ça d'un œil très positif.
Sven Rodenberg, appareil photo argentique autour du cou, prend quelques clichés dans une petite rue passante où la glace au sol fait tomber quelques malchanceux. Il est une figure locale très populaire. Il a été chef du cabinet sous l'ancienne première ministre du Groenland. Il est aujourd'hui homme d'affaires et un acteur connu. Pour lui, les Groenlandais ont toujours voulu leur indépendance. Mais pour y arriver, le peuple doit encore briser des barrières psychologiques.
Beaucoup de personnes ont été mentalement colonisées à travers le temps et c'est très difficile de se libérer de ces schémas de pensée. C'est tout un processus.
Les propos de Trump, l'homme d'affaires groenlandais, voit ça comme de la simple rhétorique.
Il faut voir au-delà. Il s'agit d'aligner les intérêts du côté américain. Ils veulent s'assurer d'être présents et d'avoir un pied à terre ici. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on va sûrement voir beaucoup de nouveaux investissements privés, directs, mais personne ne possède rien du tout. C'est un projet de financement.
Pourquoi acheter un territoire déjà totalement acquis à la cause américaine? Ça n'a pas de sens pour Pélé Broberg, leader de Nalérac, le parti de l'opposition et indépendantiste. Sur une étagère derrière son bureau, on distingue une casquette rouge avec écrit dessus « Make Greenland Great Again ».
S'il veut plus de forces armées au Groenland, je l'y invite. S'il veut plus de sécurité autour de l'Arctique, on veut la même chose. Il peut faire tout ce qu'il veut gratuitement. Le Groenland a été annexé en 1953 par le Danemark. C'est comme un père face à un enfant qui essaie de s'émanciper et d'un coup, il y a ce grand type avec de grands enjeux qui débarque et qui dit « Hé, laissez cet enfant partir !» Lui, c'est Trump pour l'État danois.
Le Groenland est à ce jour très dépendant des subventions danoises. Elles représentent la moitié des recettes publiques. Qu'en est-il de l'argument selon lequel le Groenland ne peut pas s'en sortir sans l'argent du Danemark?
Oui, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va devoir se tourner vers l'exploitation minière. Que ça nous plaise ou non, le reste du monde en a besoin.
Mais pour cela, il faudrait des investissements extérieurs massifs. Autre projet, collaborer avec de nouveaux pays pour vendre leurs poissons à de meilleurs prix qu'au Danemark. Quand on descend vers le port, on constate en effet que les cales des bateaux de pêche regorgent de produits de la mer.
Regarde, regarde!
Il y a combien de crabes là-dedans?
On a pêché 4 tonnes en 2 jours. Remonte la charge!
L'ouverture au tourisme est une autre potentielle source de revenus pour le territoire. Mais le premier ministre groenlandais, qui ce jour-là a annoncé une conférence de presse à la dernière minute, se refuse à toute précision quant à la manière d'atteindre l'autonomie totale. Ce qui est certain, c'est qu'une majorité de la population espère que ce vent d'indépendance, qui souffle actuellement sur la plus grande île du monde, se répercutera dans les urnes lors des élections en avril prochain.
Make Greenland great again.
Ottilia Ferré, Nouk, Groenland, RFI.
RFI Midi. Un monde de tech. Au Royaume-Uni, où les autorités veulent réduire les délais de traitement dans les services publics pour tout, qu'il s'agisse des rendez-vous ou de l'obtention d'un document, et pour y parvenir, Londres mise sur l'intelligence artificielle. Emeline Vin, vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni. Le gouvernement a présenté cette semaine un nouvel outil qui s'appelle Humphrey.
Oui, ce nom Very British est une référence ironique à une sitcom des années 80 où un conseiller, Humphrey, s'efforce de ralentir au maximum le travail des employés ministériels. Le Humphrey de 2025, lui, doit faire tout l'inverse. Le gouvernement pense qu'il va permettre d'économiser 50 milliards d'euros chaque année en productivité. Humphrey, en fait, c'est une boîte à outils d'intelligence artificielle. Parmi ces outils, il y a Consult, un logiciel qui doit synthétiser les consultations publiques, un processus qui prend d'habitude des semaines entières et donc retarde la prise d'action. Il y a Minute pour retranscrire en temps réel les réunions de travail, ou encore Redbox, un outil d'IA générative pour assister les fonctionnaires dans leurs tâches quotidiennes. Bon, tout ça reste encore un peu confus, comment cela va fonctionner très concrètement, à quel point cela va accélérer les démarches. Outre Humphrey, le gouvernement veut aussi une base de données centralisée pour que les Britanniques n'aient pas à communiquer les mêmes informations à plusieurs administrations différentes. Une seule fois suffirait désormais.
Et l'objectif final, c'est le maître mot de l'exécutif travailliste, c'est de relancer la croissance.
Oui, à peu près toutes les annonces de Downing Street visent à relancer la croissance économique très molle depuis quelques années. Comme exemple, le gouvernement cite le fait qu'il n'y aura plus besoin d'aller à la mairie en personne pour déclarer le décès d'un proche. Vous ne voyez pas le rapport avec la croissance? C'est vrai que ça n'est pas évident, mais le raisonnement, c'est que les outils numériques vont permettre de libérer du temps de travail pour les fonctionnaires qui pourront alors se consacrer à d'autres tâches pas sous-traitable à l'intelligence artificielle, celle-là. Par exemple, la validation de permis de construire, l'accompagnement personnalisé de demandeurs d'emploi. Bref, de tout faire bouger plus vite pour faire gagner du temps à tout le monde, désengorger les services publics, attirer les investissements et relancer l'activité économique.
Mais ce n'est pas la première fois que le gouvernement britannique se place en champion de l'intelligence artificielle.
Depuis quelques semaines, Londres veut se placer en destination phare des investissements liés à l'intelligence artificielle. La semaine dernière, un plan à 15 milliards d'euros a été dévoilé qui doit créer 12 000 emplois et des centres régionaux dédiés à l'IA. La technologie est vraiment perçue et présentée comme une opportunité pour se démarquer sur la scène internationale. Mais il faut aussi admettre qu'il y a un peu d'éléments de langage. Hein. L'IA, c'est un peu le mot à la mode que le gouvernement distille dans ses prises de parole pour donner un air révolutionnaire à des politiques qui relèvent tout simplement de la modernisation.
Emeline Vin, correspondante à Londres. Une rencontre maintenant, comme chaque jour, avec une personnalité du monde de la culture. L'artiste Prune Nouri, qui s'est plongée dans la vie de plusieurs femmes en banlieue parisienne pour imaginer ces dernières sculptures en terre qui sont exposées en ce moment à Paris. Prune Nouri est au micro de Muriel Malouf.
Bonjour Prune Nouri.
Bonjour.
Vénus, c'est le titre de votre exposition à la Galerie Templon. C'est une série de sculptures de femmes. Dans quoi ces sculptures prennent leur source?
En 2024, on m'a proposé un superbe projet qui est dans la gare de Saint-Denis-Pleyel et de pouvoir créer une œuvre permanente dans cette gare. Et j'ai 2 ans devant moi jusqu'à 2026 et je voulais vraiment m'ancrer à Saint-Denis pour mieux connaître la ville qui est pleine d'une richesse culturelle et d'une diversité incroyable. Il y a plus de 130 cultures là-bas. Et c'était vraiment l'idée de partir de cette idée de terre. Comment est-ce qu'on peut être attaché à une terre, Saint-Denis, et en même temps à plein de terres? On vient tous de la même terre. On est tous issus, peut-être aussi avec les mythes, que ce soit Yoruba ou les trois religions monothéistes. Cette idée qu'on vient tous de l'argile, de la terre, et qu'en même temps, cette terre peut avoir plein de formes, de couleurs, de matériaux. Et donc là, à l'intérieur de cette exposition, on voit de la terre rouge, de la terre ocre, de la terre marron, de la terre blanche. Et ces Vénus sont en fait inspirées de notre passé d'humain, mais en même temps, j'ai travaillé avec une association en particulier qui est la Maison des Femmes.
Et alors, quand on regarde vos sculptures, ce sont des femmes loin de l'esthétique assignée à la femme. Ce sont des femmes dont les seins pendent avec des ventres proéminents, des corps qui racontent des histoires. Est-ce que ces sculptures sont aussi inspirées de vrais modèles?
La Maison des Femmes m'a ouvert ses portes pour rencontrer à travers leurs ateliers de danse, d'alphabétisation, de karaté, des femmes à qui je pouvais proposer d'être les modèles. Et 8 d'entre elles ont accepté, au-delà de leurs tabous culturels, sociaux, mais aussi de leurs traumas corporels. Et elles ont posé pour moi et j'ai pu réaliser leurs portraits assez abstrait, anonyme, à travers à la fois l'inspiration des Vénus préhistoriques, mais aussi leur corps, mais aussi en fait leurs mots. Et on en a fait aussi un film pour pouvoir montrer dans l'exposition aussi une fenêtre sur l'intimité de l'atelier, aussi pour montrer l'unicité de chacune de ces histoires, mais aussi leur aspect universel. Parce que chacune de ces femmes, elles avaient entre 30 et 70 ans et elles venaient d'endroits complètement différents, Biélorussie, Algérie, Congo, Sicile, France. Et du coup, de pouvoir aussi montrer ce qui nous relie toutes. Et on a, en fait, sculpté ensemble, presque. Parce que on s'arrêtait parfois, on regardait ensemble, elles touchaient aussi la terre, elles me parlaient de leurs cicatrices, qu'on pouvait rajouter dans la terre. Chaque sculpture devait, pour moi, voilà, à la fin de nos séances, leur parler avant tout à elles. Et moi, j'avais l'impression d'être en train de construire une sculpture. Et en fait, elles me disaient, en fait, t'es en train de nous reconstruire.
Merci, Prune Nouri.
Merci.
Prune Nouri au micro de Muriel Malouf. Ces sculptures sont exposées en ce moment à Paris. Dans 2 minutes, un nouveau journal sur RFI. Et puis dans un peu plus d'une demi-heure, toute l'actualité africaine avec vous, Nicolas Sûr. Bonjour.
Bonjour, Anne Cantner.
Vous nous parlerez tout à l'heure
de la République démocratique du Congo. Les combats ont repris ce matin entre l'armée congolaise et ses alliés d'un côté, le M23 et des militaires rwandais de l'autre. Des combats dans les environs de Sake, à l'ouest de Goma et aussi au nord de la capitale provinciale. Et puis au Mozambique, le nouveau président Daniel Chapo renvoie l'inspecteur général de la police. Bernardino Raphaël était très critiqué pour la répression sanglante des manifestations post-électorales.
A tout à l'heure, Nicolas Sûr. Un peu de musique jusqu'au prochain journal. Les Amazones d'Afrique avec Jémy Rié et Mamani Keïta. We'll be right back.
Kilonga, au beau bout du long-temps. Otie son la ra ra, ni chez l'otiribeko. Pascali, Kilonga, au beau bout du long-temps. Otie son la ra ra, ni chez l'otiribeko.